Jean-Paul Pitchy.
Bonjour, rien n'a changé aux abords de la patinoire des Mélèzes les soirs de match du HCC. La commerçante qui refuse de passer au cashless était là hier soir et cette résistance pourrait durer. Les systèmes d'accueil extrascolaire varient en fonction des communes dans le canton de Neuchâtel. Alors que la grogne se fait entendre à Val-de-Ruz depuis le début de l'année, la situation est bien différente à Val-de-Travers avec plusieurs projets communaux en cours. Il sera interdit de se dissimuler le visage en public en Suisse. Le Parlement a accepté le projet de loi qui met en œuvre au niveau fédéral l'initiative dite anti-burqa. Belle journée de fin d'été avec du soleil et des températures agréables. Il fera entre 20 et 24 degrés cet après-midi. Au Mélèze, on peut toujours manger une crêpe ou une saucisse payée en argent liquide devant la patinoire les soirs de match. On l'a encore constaté hier soir lors de la défaite 1-0 du HCC contre Viège en Swiss League. Entre le club chaudefonnier et la commerçante qui refuse de passer au cashless pour la vente de ses produits, le litige n'est pas terminé. Vincent Costet.
Non, mais hier soir, tout le monde a fait comme si de rien n'était, ou presque. La commerçante est arrivée 2 heures avant le match, comme d'habitude. Elle a vendu ses crêpes et ses saucisses, comme d'habitude. Elle avait été accueillie par la police vendredi dernier pour le premier match de championnat. Rien de ça, hier, pas de trace non plus des autres engagements, c'est-à-dire l'arrivée d'autres marchands partenaires que le club affirmait avoir pris dans la lettre envoyée il y a 2 semaines à la commerçante pour lui demander soit d'accepter le cashless et une ponction de 15% de son chiffre d'affaires de la soirée, soit de ne plus revenir vendre ses produits devant la patinoire.
Reste à savoir si cette situation incertaine va durer. On retrouve Vincent Costet.
Alors elle dure depuis la saison dernière et elle pourrait se prolonger toute cette saison, le temps que le canton statue sur cette décision prise formellement le 10 août dernier par le conseil communal de la Chaux-de-Fonds de déléguer au HCC la gestion de l'espace public aux alentours de la patinoire les soirs de match. Le service juridique de l'État nous confirme que la société de Lourdes-Yamp, qui pour la petite histoire s'appelle le Fair Play, a bien fait recours auprès du département du développement territorial et de l'environnement et que ce recours sera traité dans les meilleurs délais. Maître Frédéric Hénard, l'avocat de Lourdes-Yamp, connaît par cœur la maniclette et pour lui, tout cela nous mène à la fin du printemps 2024 et il n'est pas exclu qu'à ce moment-là, la commerçante décide d'aller jusqu'au tribunal fédéral. Sur les réseaux sociaux, certains appellent au boycott du stand historique des saucisses et de celui des crêpes. Reste à savoir ce qu'en pense l'estomac des supporters du HCC.
Retrouvez ce dossier sur rtn.ch. Solution de rechange pour la psychiatrie à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment du centre de psychiatrie communautaire des montagnes a été endommagé par la tempête du 24 juillet. Il sera en travaux plusieurs mois. Le centre neuchâtelois de psychiatrie communique ce matin que ses activités sont temporairement déplacées dans 4 locaux différents en fonction des patients concernés. Sur rtn.ch, vous trouvez les adresses et les dates à partir desquelles ces services de remplacement seront opérationnels. L'accueil extrascolaire diffère d'une commune à l'autre dans le canton de Neuchâtel. À Val-de-Ruz, le manque de structures parascolaires est au cœur des débats depuis le début de l'année, alors que des parents réclament des places supplémentaires pour leurs enfants. Dernier rebondissement la semaine passée avec une 40aine d'écoliers qui doivent transiter entre 2 structures d'accueil au Genevet-sur-Cofrane et Cofrane. Conseiller communal de l'éducation et de la jeunesse à Val-de-Ruz, Jean-Claude Brechbuller nous explique ce matin que l'accueil extrascolaire est un domaine plutôt privé dans la commune. Déjà avant la fusion, toutes les crèches étaient privées. Dans le parascolaire, 3 structures privées existent. Le domaine public se charge sinon de la majorité des places. Selon le conseiller communal, aucune raison de changer cette répartition qui fonctionne bien. À Val-de-Travers, par contre, l'accueil extrascolaire est surtout géré par la commune, à quelques exceptions près. Le fonctionnement est plus flexible, selon Christophe Calame, chef du dicastère de la jeunesse et de l'enseignement.
Ici, à Val-de-Travers, c'est un choix qui a été fait au niveau de la fusion des communes, de rapatrier cette offre de crèche au niveau de la commune. Je pense que ça permet aussi une amélioration de la qualité. Ça nous donne une meilleure maîtrise, ça permet de créer des synergies en ayant par exemple une seule responsable d'un service pour plusieurs structures sur plusieurs villages différents. Ça permet aussi d'avoir une uniformité de traitement dans chacune de ces structures, de ne pas avoir de grosses différences dans la qualité de l'accueil entre la crèche de Couvet et celle de Fleurier, par exemple. C'est tous des éléments qui ont fait que les autorités ont choisi de maintenir ça dans le domaine public jusqu'à ce jour.
Est-ce que c'est aussi plus facile de pouvoir maintenir, par exemple, seulement 15 places à Noiraigue ou à Butte ?
Alors, c'est plutôt dans le domaine du parascolaire, que ça serait le cas, une structure parascolaire privée à 15 places, absolument aucune chance de voir le jour. D'ailleurs, si on nous faisait la demande, il y a eu plusieurs demandes par le passé, où des gens à travers, par exemple, ont voulu créer des structures parascolaires de cette taille-là. Elles ont été refusées parce que clairement, elles ne peuvent pas être rentabilisées, c'est simplement impossible. Alors que dans un cadre communal, on est plus dans une offre ou dans une prestation à la population qu'on souhaite offrir, et puis on n'est pas forcément dans une recherche de rentabilité, qui est un terme qu'on utilise assez peu quand on parle d'accueil extrafamilial.
Un sujet de Stéphanie Wenker. Actuellement, deux projets sont en cours de construction à Fleurier et depuis cette semaine à Couvet. Ensemble, ils permettront de rajouter 40 places en crèche et 30 en parascolaire d'ici 2025. L'interdiction de se dissimuler le visage va pouvoir entrer en vigueur. L'initiative populaire a été acceptée par 51% des votants en 2021. Le Conseil national a mis sous toile la loi d'application ce matin. Il sera interdit de se cacher le visage dans les lieux publics ou accessibles au public. Mais toute une série d'exceptions est prévue, par exemple dans les lieux de culte, pour garantir sa sécurité ou à des fins artistiques. L'Union démocratique du centre était l'un des seuls partis à soutenir l'initiative populaire. Elle est aujourd'hui satisfaite de son application. Michael Buffa, conseiller national UDC.
Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une loi au niveau fédéral qui soit mise en place pour appliquer cette initiative. Aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Donc, je pense que oui, effectivement, on respecte la volonté de la population qui ne veut pas qu'on puisse se dissimuler le visage sur l'espace public.
Pour vous, ce n'était pas une option de finalement laisser chaque canton décider comment appliquer la loi ?
Non, je pense que ça aurait été trop compliqué d'avoir 26 législations différentes. Je pense qu'il fallait vraiment un cadre uniforme au niveau suisse pour appliquer cette loi afin que, par exemple, les personnes qui viennent de l'étranger, les touristes ou comme ça, ils ne soient pas totalement désorientés.
Les Verts et quelques libéraux radicaux ne voulaient pas de cette loi d'application. Ils ont refusé d'entrer en matière. Les explications de la conseillère nationale verte Nathalie Imboden.
Alors c'est clair, on respecte la décision du peuple. Ça veut dire qu'on doit mettre en vigueur maintenant la décision. Nous, on s'est opposé sur la question qui va appliquer. C'était aussi discuté avant la votation que c'est les cantons qui doivent mettre en œuvre maintenant cette décision. Nous, on trouve toujours que c'est mieux de rester sur cette ligne parce qu'il y a quand même des différences entre les cantons et on avait promis de le faire dans ce sens-là. Maintenant, la Confédération et le département ont changé et la majorité a décidé de faire une application, une mise en œuvre sur le plan national et ça, on voulait rester sur la ligne qu'on avait avant.
Un dossier de notre correspondante à Berne, Marie Villemier. La loi prévoit que les personnes qui se dissimulent le visage en public risquent une amende jusqu'à 1000 francs. 8,8 milliards de francs pour le développement du réseau routier. Le Conseil des États est entré en matière ce matin sur les montants demandés par le Conseil fédéral. Ils concernent la période 2024-2027. Quelques 4 milliards de francs sont notamment demandés pour 5 projets alémaniques à réaliser d'ici 2030. Le Conseil national a ajouté 911 millions pour l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon dès 2023, initialement pas prévu avant 2030. Toujours sous la coupole, le Conseil des États ne veut pas d'un péage au Gothard. Il a rejeté aujourd'hui par 15 voix contre 8 et 13 abstentions, une motion en ce sens du président de l'UDC, Marco Chiesa. Les partis politiques sont soumis à de nouvelles règles lors des élections fédérales du 22 octobre. Pour la première fois en Suisse, les partis et les candidats doivent rendre public leur budget de campagne. Ils avaient jusqu'au 7 septembre pour transmettre leurs données au contrôle fédéral des finances. Cette règle s'applique uniquement aux campagnes de plus de 50 000 francs et pour l'instant, seuls les partis et les candidats au Conseil national sont concernés. Pour le Conseil des États, les candidats ne devront déclarer leur budget qu'après l'élection et seulement s'ils ont été élus. Malgré cette loi, il est difficile de connaître précisément le budget de campagne de chaque candidat. Marie Vuillemier, notre correspondante au Palais fédéral.
C'est difficile en fait de trouver cette information, hein, même si toutes les données elles sont accessibles au public sur le site internet du contrôle des finances. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu, hein, mais c'est vrai qu'on a des informations par candidat, mais on doit les chercher à différents endroits. Un candidat il peut être soutenu par plusieurs campagnes différentes. Par exemple, il peut être soutenu par sa section locale du Parti libéral radical et puis aussi par une organisation suisse comme Gastre Suisse. Et les budgets annoncés par exemple la section locale ou par Gastre Suisse, c'est souvent des enveloppes globales pour plusieurs candidats et on ne sait pas exactement comment sont réparties ces enveloppes entre les candidats. Donc c'est quand même difficile de savoir finalement un candidat tout seul, combien en gros est-ce qu'il reçoit de ces différentes campagnes. Et puis, on a aussi le cas si un candidat finance sa propre campagne à hauteur de 40 000 francs, donc juste pas la limite de 50 000, et qui reçoit un soutien de sa section locale à hauteur de 20 000 francs, il n'est pas forcément obligé de déclarer ses montants, même si le total c'est plus que 50 000, parce qu'il s'agit en fait de deux campagnes différentes.
Marie Viomi est un invité de la matinale, un entretien retrouvé en intégralité sur rtn.ch.
Midi 25.
Sport. La commission de discipline de Swiss Ice Hockey a ouvert une procédure ordinaire à l'encontre d'Yves Stoffel, l'attaquant du HC La Chaux-de-Fonds. S'est fait l'auteur d'une charge contre la bande, a priori incorrecte, contre Raphaël Kuonen, hier à la 15e minute de la rencontre de Swiss League face à Viège. Un match perdu 1-0 par le HCC. Le Street Hockey Club La Chaux-de-Fonds à l'assaut d'un nouveau championnat. Le club de la Charrière ouvrira l'exercice 2023-2024 de Liga vendredi soir sur le terrain de Belp. La saison dernière, le SHCC s'était hissé pour la première fois de son histoire en demi-finale des playoffs. Ce résultat récompensait une génération de copains qui jouaient depuis une dizaine d'années ensemble. Mais l'intersaison a été marquée par de nombreux changements au sein de l'effectif. Ancien parmi les anciens, Grégory Farrington n'a lui pas abandonné le navire. Bien au contraire, il revient à la tête de l'équipe pour la quatrième fois de sa carrière. À 39 ans, il porte la double casquette d'entraîneur-joueur avec comme objectif d'assurer une transition en douceur.
Avant tout, c'est un challenge personnel et c'est aussi de sentir que c'est une période de transition. Et je pense que dans les périodes de transition, c'est important de pouvoir amener aussi de l'expérience, peut-être une petite dose de sagesse, du moins j'ose espérer. C'est quelque chose que j'aime faire, accompagner et puis susciter un engouement pour ce sport que j'aime tant. C'est vrai qu'on vit cette période de transition aussi au niveau du club de manière générale. Après, il y a des projets qui se mettent en place. On a un renouveau typiquement avec l'équipe féminine qui va commencer cette année son premier championnat. On a bien sûr le mouvement junior qui a souffert du Covid. Et puis maintenant, on essaie de participer à différents événements. Notamment, il y aura les Family Games qui seront à la Charrière. Et puis, il y a tout cet aspect finalement de transition au niveau de la première équipe où on a perdu 7 joueurs et il a fallu renouveler notre contingent et on va retravailler là-dessus pour cette saison avec des objectifs peut-être revus à la baisse au niveau du championnat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prêt pour les playoffs.
Des propos recueillis par Marcel Neunschwander. Le premier match de la saison de Liga du SHCC est programmé vendredi soir à 20h sur le terrain de Belp. Bon appétit, bel après-midi.